Vincent Calame, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques lecture buissonnière, ou comment parler du libre par des chemins, détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Le thème du jour, la loi de 1901 sur les associations. Bonjour Vincent.
Bonjour. Alors je ne vais pas permettre à nos auditrices et auditeurs de souffler, parce que je veux aussi leur parler de juridique. Alors pourquoi? Parce que pour rappel, j'avais commencé en janvier la présentation de l'ouvrage « Une histoire des libertés associatives » de Jean-Baptiste Jobard aux éditions Charles-Paul Meyer, dont l'objectif est d'éclairer les luttes actuelles à la lumière de l'histoire longue du mouvement. Alors nous en étions restés à la révolution de 1848, qui était l'occasion manquée du triomphe de l'associationnisme. Bon, passons le Second Empire, qui n'apporte rien de nouveau dans la répression des associations, et abordons la Troisième République, qui est riche en légalisation. En 1884, reconnaissance des syndicats, en 1898, celle des mutuelles, et bien sûr, en 1901, celle que nous connaissons tous, la loi sur les associations. En 20 ans, les libertés progressent en France. Alors, enfin, en France métropolitaine s'entend, car dans la même période, la France se taille le deuxième empire colonial de la planète, derrière le Royaume-Uni. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette période. Bon, je ferme ici cette parenthèse qui m'éloignerait du sujet, mais il est toujours bon de rappeler que tout n'est pas rose dans notre beau roman national. Donc, revenons donc à notre loi de 1901. J'ai dit que nous la connaissions tous, mais est-ce vraiment le cas? Jean-Baptiste Jobard ne s'étend pas sur l'histoire de cette loi, mais il nous dit ceci, je cite: soulignons l'immense intérêt du laconisme législatif, entre guillemets, de Waldeck-Rousseau, l'auteur de la loi, en 1901. Sa loi est facile à lire et elle offre simplement un cadre à des pratiques qui sont largement à inventer. Donc je vous propose de répondre à l'invitation de Jean-Baptiste Jobard et nous plonger dans la loi, ce qui au passage nous permet de remplir un peu de frais ma chronique avec quelques copier-coller, et vous trouverez le texte de la loi sur le site de Légifrance. La loi ne fait plus qu'une vingtaine d'articles, hein, beaucoup d'autres ont été abrogés. Et les trois articles fondamentaux sont les articles 1, 2 et 5. Donc je vous les lire, les voici avec des coupes. Alors, article 1, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Article 2, les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation, ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles sont conformes aux dispositions de l'article 5. Et article 5, toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable fera connaître le titre et l'objet de l'association, les noms, professions et domicile et nationalité de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration. Et les associations sont tenues de faire connaître, dans les 3 mois, tous les changements survenus dans l'administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leur statut. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bon, il y a aussi l'article 6 qui évoque le financement des associations, les articles 10 à 12 sur la déclaration d'utilité publique, mais pour le principal, tout est là dans ce que je viens de vous lire. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? À aucun moment, on ne parle de président, de trésorier, de bureau, ni même de conseil d'administration, de représentant légal. On parle juste de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association. Tous ces titres auxquels nous sommes habitués, pour peu qu'on soit adhérent de 2 ou 3 associations, ne sont pas des obligations de la loi. Ce sont simplement des usages établis par habitude, par les modèles de statut proposés dont on n'ose pas s'éloigner. C'est aussi une conséquence de la frilosité des banques, des administrations, des bailleurs qui ne veulent voir qu'une seule tête et un seul représentant légal. Il y a donc une grande marge de manœuvre dans l'élaboration des statuts. Je sais que c'est une réflexion qui traverse de nombreuses associations en ce moment. La dernière AG de l'April, la présidence a évoqué un projet de réécriture des statuts de l'April, justement. Je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas s'il s'agit d'un simple toilettage ou d'une refonte plus en profondeur. En tout cas, lâchez-vous, la loi vous l'autorise.
Est-ce que tu prends prétexte d'une chronique pour essayer d'en savoir plus en public?
Oui, tout à fait. Je profite du direct. On ne peut pas me lâcher, je vais vous retenir. Alors, pour continuer là, sur l'AG de l'April, on plaisante chaque année sur la présence d'une seule liste pour le conseil d'administration qui est élu évidemment à plus de 99% des voix. Un score soviétique. Mais revenons au bel article 1 de la loi de 1901. L'association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que le partage des bénéfices. C'est une belle définition de dire que l'association est tout simplement une mise en commun des connaissances et des qualités. Finalement, quand on y pense, ce serait plutôt la présence de deux listes à l'élection qui serait inquiétante pour l'April ou toute autre association. Ça voudrait dire qu'il y a des enjeux de pouvoir, un trésor de guerre à s'accaparer, une notoriété à détourner pour son propre prestige ou que sais-je encore. Sur quelle base choisir par un bénévole comme moi s'il y avait deux listes? Il faudrait choisir un camp plutôt qu'un autre? Que devient la mise en commun? Je crois que j'irai tout simplement bénévoler ailleurs. Car comme le rappelle l'article 4, tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps. Alors, longue vie à la liste unique du CA de l'April et bon chantier de refonte des statuts. Je refais une couche. Si vous comptez tout remettre à plat, faites quand même appel à un juriste, on ne sait jamais.
Non, le problème, Vincent, c'est que je ne sais pas où trouver un juriste, parce qu'il n'y en a pas autour de cette table, par exemple. S'il y a Benjamin Jean en face de nous. En fait, il n'y a aucun secret sur la révision des statuts de l'April. Il y a deux raisons principales. C'est que la dernière modification des statuts de l'April date de 2005. La première version, c'est 1996. Et il y a beaucoup de termes, tout simplement, qui sont genrés. Parce que comme beaucoup d'associations, on a repris des statuts type, avec un président, un trésorier, un secrétaire. Aujourd'hui, on a une présidente. Au niveau du monde du conseil d'administration, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, il y a une question de rendre les statuts inclusifs pour que toute personne, quel que soit son genre, puisse s'y reconnaître. Et la deuxième chose, comme je le disais, donc les statuts datent de 2005, la dernière version. Il y a des choses qui étaient faisables en 2005 qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité dans le mode de fonctionnement, donc on va en profiter aussi pour toiletter un petit peu cette partie-là. Donc, comme c'est quand même un travail un peu important, ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Il y aura donc une assemblée générale extraordinaire qui sera organisée pour modifier ces statuts. Probablement au second semestre 2024, on espère en tout cas. Voilà, donc il n'y a aucun secret là-dessus, donc pas besoin d'être dans le secret des dieux et des déesses. mais tu as bien fait de poser la question. Je regarde mes notes, oui tout à fait. Donc voilà, donc c'était donc tu en as fini avec la lecture de ce livre ou la prochaine?
Non, parce que...
Pas encore, d'accord.
J'en suis à 1901, et donc comme c'est sur l'histoire, on va ensuite j'aborderai la période plus récente.
D'accord. Eh bien, donc la prochaine chronique de Vincent, donc sans doute le mois prochain, donc nous sommes en avril, donc en mai 2024, ce sera la poursuite donc de la lecture de ce livre, Une histoire des libertés associatives de Jean-Baptiste Jobard, à moins que l'actualité te pousse, comme à certaines fois, à faire un pas de côté pour aborder un autre sujet. Donc c'était la chronique, les lectures buissonnières de Vincent Calame. Merci Vincent et belle fin de journée.